Dijon avec Suzanne Sontag.
Now, one. Okay, shoot your shot.
Jean Cocteau, les opéras de Richard Strauss, les lampes Tiffany, la chanteuse cubaine La Loupée, les films Scopitone, Le Lac des Cygnes ou encore les vieux comics de Flash Gordon. En 1964, Suzanne Sontag dresse la liste, 58 notes numérotées, de ce qui est camp ou pas camp. Camp, dérivé du français se camper, soit posé de façon ostentatoire et théâtrale. 58 notes numérotées pour mettre le doigt non pas sur une idée, mais sur une sensibilité, pour briser les snobismes culturels de l'élite et du populaire, mais surtout pour questionner cette mise en scène de soi. 58 notes numérotées qui conduiront Suzanne Sontag à interroger, dans la suite de son œuvre, tous ses soi, tous ses moi, ses identités fabriquées, sexualisées, façonnées, genrées, stéréotypées, hiérarchisées, publiques et privées, pour enfin les déboulonner. Bonjour Cornelia Moser.
Bonjour.
Vous êtes docteur en études de genre, vous êtes chargée de recherche au CNRS, au laboratoire CESPRA et aussi au centre Marc Bloch à Berlin. Vous avez écrit « Féminisme en traduction », c'est votre thèse qui est parue aux éditions des Archives contemporaines et vous avez travaillé sur les textes de Suzanne Sontag. En 1964, Suzanne Sontag, comme je l'ai dit, lance un pavé dans la mare avec ses notes sur le camp. Qu'est-ce que le camp ?
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à vous.
Qu'est-ce que le camp ? Vaste question, en effet. Vous avez déjà dit dans l'introduction que Susan Sontag le décrit plutôt comme une sensibilité, ce qu'elle oppose à une idée. Donc, pour souligner que le camp, c'est quelque chose de fugitif, qui est difficile à décrire, et non pas quelque chose à définir rigoureusement comme une idée. En cela, cela ressemble peut-être aussi au terme queer, parce que les notes sur le camp sont aussi un texte proto-queer.
Qu'est-ce que vous entendez par proto-queer ?
Ben, les proto-queer dans le sens où les politiques et études queer émergent dans les années 90. Et ce texte-là, il a été publié en 64, donc bien avant même aussi l'acmé des mobilisations féministes, gays et lesbiennes, etc.
Et pourquoi un tel succès de ce texte qui essaye de mettre le doigt, donc, comme je l'ai dit, sur une sensibilité ? C'est ce qu'elle décrit en fait. Elle dit que le camp, c'est l'ennemi du naturel, porté vers l'artifice et l'exagération. C'est une sorte de langage codé. Et elle dit voir de coupe-fil personnel parmi de petites cliques civilisées. Pourquoi en fait s'être attachée à ce trait-là, à cette sorte de qualité qui peut d'ailleurs tenir autant à un film, à un objet qu'à une personne ? Et qu'est-ce qu'elle y voyait comme peut-être comme cristallisation d'une époque ?
Oui, en tant que critique culturelle, Suzanne Sontag, elle s'intéresse toujours au phénomène culturel, à la fois parfois au phénomène culturel de masse, comme la photographie, comme les films d'apocalypse, etc., et aux cultures quelque part, subculture ou marginale, en fait. Elle s'intéresse à la pornographie, elle s'intéresse aux livres dans les gares, et elle s'intéresse aussi au camp qui dans les années 60, lorsqu'elle écrit les notes en camp, est une subculture homosexuelle, en fait, à laquelle elle se sent attirée, et qu'elle décrit aussi comme quelque chose qui la repousse en même temps. Donc elle cherche aussi, par ses notes, je pense, à se positionner par rapport à cette subculture, en quelque sorte. Je pense qu'il faut peut-être différencier le camp de Suzanne Sontag et le camp tel qu'on peut en trouver la description dans la recherche, l'étude Mother Camp d'Esther Newton sur les drag queens, sur les travestis aux États-Unis, qui elle a fait vraiment une enquête de terrain et qui décrit le camp comme comme une gestion du stigmate, en fait, comme une manière de résister à une société homophobe, alors que pour Susan Sontag, ce n'est pas du tout, elle décrit le camp comme quelque chose de dépolitisé. Ce qui l'intéresse dans le camp, c'est pas du tout cet aspect politique-là, elle le dénonce carrément comme étant propagandiste, cet aspect-là. Ce qui l'intéresse dans cette sensibilité du camp, c'est plutôt une recherche de sensibilité et un sérieux. Elle fait l'opposition entre le camp et le camping, justement. Le camp étant naïf, une manière d'être extrêmement dédié à quelque chose, de faire quelque chose de manière très rigoureusement, très poussée, se concentrer extrêmement sur quelque chose, créer quelque chose de manière excessive. Et qui est inconscient, mais qui est le plus efficace selon Sontag. Et elle oppose ce camp au camping, qui serait une forme de consciente de faire de la parodie, qui l'intéresse un peu moins, mais duquel, moi, je pense, elle sous-estime peut-être le potentiel militant, parce qu'Esther Newton, elle définit le camp par trois caractéristiques, c'est-à-dire l'incohérence, donc la juxtaposition des choses qui n'ont rien à voir aussi, la théâtralité, deuxièmement, et troisièmement, l'humour. Et cet aspect d'humour, j'ai l'impression qu'il l'intéresse moins Sontag.
Qu'est-ce qui l'intéresse alors? À quoi s'intéresse-t-elle? Au sérieux du camp.
Elle s'intéresse au sérieux du camp. Elle s'intéresse vraiment à cette, vous avez déjà fait allusion à cette question du soi, en fait, à cette question de vouloir créer quelque chose. En fait, j'ai vu que l'émission d'hier s'était appelée On ne devient pas Susan Sontag, on ne naît pas Susan Sontag, mais devient. On le devient. Et cette référence à Simone de Beauvoir, je l'avais déjà aussi en me préparant à cette émission, parce que je trouve qu'il y a dans la manière d'écrire ces notes en camp aussi quelque chose qui m'a rappelé le féminisme de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire cette exigence d'être à la recherche de quelque chose, de produire une individualité, de devenir une personne et de ne pas se limiter à reproduire quelque chose, de ne pas rester dans la passivité, cette exigence quelque peu existentialiste de certes confronter aussi les structures sociales, mais de les confronter frontalement et en fait, sous une sorte qu'elle écrit dans la première personne, elle dit je. Elle exige d'être une personne et elle veut emporter la responsabilité.
Donc, ce qui est intéressant dans cette notion de camp chez Susan Sontag, c'est que ça va pas être une pensée politique qu'elle va déployer à ce moment-là, ou une pensée sociale, ou une pensée peut-être de libération morale, politique, sociale des individus, mais plutôt une pensée de la construction individuelle et singulière de chaque personne.
Oui, et en effet, on pourrait lui reprocher là-dedans un aspect dépolitique ou un manque de féminisme. En effet, par exemple, elle n'a jamais rejoint les organisations féministes ou LGBT, mais il y a là-dedans, il me semble quand même quelque chose d'extrêmement politique, parce qu'elle a, dans cette exigence individuelle, dans cette individualité, elle a aussi, d'une part, été politique dans la mesure où elle a refusé de se laisser enfermer dans des cadres, c'est-à-dire des cadres de ce qu'on attend d'une femme, ce qu'on attend d'une mère, ce qu'on attend d'une lesbienne, ce qu'on attend d'une bisexuelle, ce qu'on attend d'une juive. Enfin, elle n'a pas accepté de se laisser enfermer dans des catégories. Et elle a néanmoins toujours été, elle a défendu des positions publiquement contre les discriminations sexistes. Elle a refusé se faire appeler female author, enfin auteur femme. Elle a dit voilà, je suis une auteure, j'ai pas besoin de ce, enfin on ne dit pas un auteur homme quoi. Et elle a refusé, elle a été solidaire lors de la crise du SIDA, de sa communauté. Elle n'a jamais eu peur de se prononcer contre des attaques sexistes. Donc elle a été féministe, clairement, pour moi.
Justement, on va entendre la voix de Susan Sontag, Cornelia Moser. Ça rejoint ce que vous venez de dire sur le côté, la dimension apolitique du féminisme de Susan Sontag.
Je pense que cette libération sexuelle est plutôt trompeuse. Je suis pas du tout contre l'égalisation des droits sexuels dans le sens que c'est honteux qu'une femme est punie parce qu'elle a un rapport hors de la mariage et l'homme est parfaitement libre de l'avoir. Mais je suis contre ce qu'on appelle en anglais the double standard. Je ne sais pas si vous avez un mot comme ça en français. Mais je ne pense pas que c'est dans l'exercice de sa vie sexuelle qu'on peut trouver une libération authentique, une égalisation de la situation hommes et femmes, parce que la vie sexuelle finalement est une chose privée et un changement dans la situation de la femme, une vraie égalité, une vraie libération, une vraie prise au pouvoir à égalité hommes et femmes est une chose qui doit se passer finalement et plus profondément dans les champs politiques, sociaux et économiques. La vie sexuelle n'est pas simplement pour nous une chose privée, mais c'est une chose même asociale, c'est une chose dans laquelle on se retire de la communauté, on s'isole. La situation idéale de la vie sexuelle, c'est le huis clos. Et moi, je pense que la sexualité est profondément apolitique et que la lutte est, dans le sens plus large, politique.
La sexualité est profondément apolitique. C'est Susan Sontag qui déclarait ça dans une archive de 1976 pour la télévision canadienne. C'est très intéressant parce que si on fait le lien avec ses notes sur le Kemp, où en fait finalement la question c'est de s'intéresser à cette construction de soi par l'artifice, par l'exagération, par la distance, on pourrait aussi se dire que cette question de la construction de soi, elle est indépendante de la question du genre, de la question du féminin ou du masculin, du sexe, de la sexualité. Et finalement, il y a un lien évident chez Susan Sontag qui se noue entre le kemp, entre la recherche de soi et la déconstruction de son genre. Mais en revanche, cette question-là, elle n'est pas politique. Comment comprendre en fait cette espèce de c'est très paradoxal de ne pas lier la question du genre et de la construction de soi indépendamment, de manière indépendante de la communauté, de la société, de la politique.
En effet, ça peut choquer déjà rien que d'entendre la sexualité serait quelque chose d'apolitique. On peut se dire, mais elle va complètement à l'encontre du slogan de base du féminisme qui est le privé et politique.
Mais aussi de ce qu'on peut, peut-être aussi d'un état d'esprit actuel. Là, en 2020, une trentaine d'années, 25 ans après cette archive, il est très courant d'entendre que tout est politique et que ce qui se joue dans un lit est politique, que ce qui se joue dans une cuisine et avec son corps est politique.
Oui, mais je voudrais mettre en garde contre il ne faut pas mal comprendre sa manière de dire que ce serait apolitique comme une manière de revendiquer comme si ce serait privé, de l'ordre du privé, comme s'il n'y avait rien de politique là-dedans. Je ne pense pas que c'est ce qu'elle veut dire dans cet entretien. À mon avis, ce qu'elle veut dire, je pense, c'est qu'on ne peut pas se libérer par la sexualité. On ne peut pas, en couchant d'une manière ou d'une autre, avec une personne ou une autre, se libérer ou libérer une société. Elle se dirige, pour moi, clairement contre d'une part, une vision optimiste de la révolution sexuelle qui pensait pouvoir libérer carrément la société par la sexualité. Donc l'idée de, par exemple, le Front homosexuel d'action révolutionnaire en France pensait que l'homosexualité allait pouvoir faire tomber le capitalisme bourgeois, en fait, qu'en cassant les familles qui sont en effet les institutions qui reproduisent le plus les inégalités sociales dans nos sociétés, ils pensaient pouvoir changer la société en devenant homosexuel. Donc elle n'est pas convaincue de cette compréhension de la sexualité. Elle n'est pas non plus d'accord avec la compréhension de la sexualité que porte après, par la suite, dans les années 70, les féministes radicales, pour qui la sexualité, au contraire, n'est pas quelque chose qu'il faut libérer ou qui serait libérateur, mais au contraire, ayant vécu parfois difficilement cette révolution sexuelle, il y a des féministes qui disent que c'est la sexualité même qui,
qui reproduit les schémas d'oppression ou le dispositif de domination.
Elle parle des violences, de violences sexuelles, de viols, etc. Et elle dit qu'il faut libérer les femmes de la sexualité. Susan Sontag n'est pas d'accord avec cela non plus.
En fait, Susan Sontag, elle se situe au-delà de l'alternative entre sexualité émancipatrice, libératrice et sexualité aliénante, assujettissante.
Oui, en fait, en quelque sorte, encore une fois, elle est proto-queer parce qu'en effet, au début des années 80, dans le féminisme états-unien, il y a une discussion qui a été nommée les sex wars, donc une grosse discussion sur la place de la sexualité dans la pensée féministe, dans laquelle par la suite émergent les études queer et qui recherchent à défaire les liens justement entre les espoirs d'émancipation et la sexualité. Et ce qui est important pour, en fait, il y a le texte sur la pornographie dans lequel Susan Sontag compare la sexualité plutôt à l'énergie nucléaire. Bon, ça s'est passé avant Tchernobyl, mais ce qu'elle veut dire par là, en comparant la sexualité à l'énergie nucléaire, c'est qu'elle dit, bon, on peut le maîtriser, on peut en tirer des bénéfices physiques, psychiques, du plaisir. Mais il y a aussi du danger là-dedans. Ce qui l'intéresse dans la sexualité, dans son texte sur la pornographie, mais aussi dans d'autres textes, je pense, c'est que ça peut... Enfin, la pornographie, en fait, elle le discute comme quelque chose qui peut être une exploration des limites de la conscience. Et elle s'intéresse à la création de nouvelles imaginations. Elle constate qu'à l'époque du texte qui date de 76... toute l'imagination, en fait, est calquée sur l'imaginaire religieux, y compris et surtout même le pornographique. Et donc, du coup, elle, ce qui l'intéresse, c'est de s'inventer, de s'imaginer en dehors de ce cadre religieux. Et elle pense que la sexualité, les drogues peuvent aussi aider à explorer ces limites de la conscience, mais elle met aussi en garde que la sexualité, comme les drogues aussi, peuvent être dangereux, en fait.
Et est-ce qu'on peut définir, en fait, le type de féminisme de Susan Sontag? Parce qu'il me semble vraiment singulier, c'est-à-dire qu'elle se différencie des féministes radicales, elle n'est pas non plus affiliée à un mouvement politique, elle soutient que le privé n'est pas forcément politique et peut être asocial. Elle voit la sexualité non pas comme une libération ou comme une aliénation, mais vraiment dans un entre-deux où peut se jouer des reconstructions, une réimagination des sujets. Finalement, quel est le féminisme de Susan Sontag? Est-ce qu'on peut même se dire que Susan Sontag est féministe au sens où on l'entend à partir de théories, de thèses, telles qu'on l'entend dans les études de genre?
Mais il n'y a pas un féminisme, il y a plein de féminismes, il y en a eu plein de féminismes dans le passé et aujourd'hui encore, il y a plein de féministes qui ne sont pas du tout d'accord. Ça fait toute la richesse, je pense, et même aussi peut-être une des recettes de succès des féminismes, c'est d'être aussi diverses. Le féminisme de Susan Sontag, en effet, il ne correspond pas à un féminisme radical d'une Catherine MacKinnon, elle ne correspond pas à un féminisme matérialiste d'une Christine Delphi, comme on le connaît en France. Ce qui qualifie le féminisme de Susan Sontag pour moi, c'est cette exigence de dire « je ». Là-dedans, elle ressemble en effet à Simone de Beauvoir, de ne pas s'excuser pour dire « je » et de vouloir vivre sa vie comme on l'entend. Voilà, d'exiger le droit de vivre comme on l'entend, comme on le souhaite, même si on est une femme. Sa manière de s'intéresser à la sexualité, en fait, ça n'a pas été non plus un thème central de ses écrits, mais...
C'est révélateur quand même d'une certaine position.
Et les manières dont elle en parle, en fait, les textes, quand elle parle de la sexualité, elle parle du camp, elle parle de sadomasochisme, et elle parle de la pornographie. Donc, en effet, c'est révélateur aussi qu'elle s'intéresse beaucoup plus au plaisir qu'à l'identité. Elle ne croit pas qu'on peut s'émanciper par la sexualité ou de la sexualité, et elle ne pense pas que c'est bénéfique de s'enfermer dans des catégories. Donc elle est déconstructiviste, queer, si vous voulez, comme féministe, à mon avis.
J'étais très impressionnée, par exemple, quand mon fils, il avait 2-3 ans, et il voulait que je l'achète des choses comme une poupée, il voulait une toute petite aspirateur, il voulait des choses, de quoi, de foyer qu'il m'a, il m'a vu employer. Je suis pas une grande ménagère, mais quand même. Et il voulait que je les achète dans un tout petit modèle plastique qui existait déjà à l'époque. Et mes amis sont venus à la maison et disent, mais il a un jouet d'aspirateur, il traînait cette toute petite chose en plastique. J'ai dit, mais il m'a demandé, il voulait, et c'est naturel, un enfant a envie d'imiter. Alors quelqu'un dit tout de suite, un de mes amis, je trouvais bien à l'époque, mais mon petit garçon, tu veux pas un revolver? Déjà, c'est-à-dire, moi je pouvais faire tous les efforts, mais cet ami a communiqué l'impression à mon fils qui avait 3 ans que avoir une poupée, avoir un petit aspirateur en plastique était une chose honteuse et pour lui, il faut avoir un petit camion, un petit revolver. Alors il faut aussi casser ce niveau de ségrégation de jouets. Très très important parce que beaucoup de choses se passent à ce très jeune âge.
Est-ce que dans cette archive de 1976 de Susan Sontag, on entend une forme de préfiguration des thèses qu'on va entendre plus tard, notamment dans la bouche de Judith Butler, sur la construction culturelle et sociale des genres, à savoir cette ségrégation qui identifierait des traits, des objets plutôt féminins ou plutôt masculins? Cornelia Moser.
Oui, bien sûr. Après, je pense que des féministes avant Judith Butler, même si j'ai beaucoup d'estime pour son travail, des féministes avant Judith Butler ont critiqué ce que Sontag appelle le ségrégationnisme du genre. En France, des travaux de Nicole Claude Mathieu, il y a des travaux importants qui ont critiqué cette ségrégation. Il me semble que fabrication d'identité figée dans laquelle on enferme les hommes et les femmes. Après, ce qui est vraiment important et là-dedans, je suis d'accord qu'on peut rapprocher 65 actes de Judith Butler, c'est cette manière de détacher le sens d'une naissance, en fait. Que le féminin, elle ne s'arrête pas à une critique de Judith Butler dans Trouble dans le genre, elle ne s'arrête pas à une critique de la ségrégation du masculin et du féminin. Ce qu'elle fait par son trouble qu'elle veut s'aimer dans le genre, c'est de dire, notamment à l'exemple des drag queens qui font du camp, qu'en réalité, le système de genre ségrégationniste, il est assez paranoïaque, en fait. Il a besoin d'être constamment confirmé tous les jours. Constamment, il a besoin d'être confirmé. Donc là-dedans réside en réalité une fragilité. Ce système qui a l'air tellement bétonné, en réalité, il est assez fragile. Et quand on s'en sert de ce besoin d'être réaffirmé constamment, on peut réitérer différemment, on peut jouer avec ce besoin et par exemple, élargir la possibilité d'être une femme, la possibilité d'être un homme en introduisant, en jouant avec les symboles, en jouant avec le sens et parce que voilà, il n'y a pas d'essence de femme, il n'y a pas d'essence d'homme pour une Judith Butler et elle dit que cette production elle a du sens dans qui est donné dans le lien du symbole femme au symbole homme. Et donc, du coup, là-dedans réside aussi, s'il y avait une essence femme et homme, il n'y aurait pas besoin constamment
de la réaffirmer.
De l'afficher. Voilà.
Et ce sont des prémices qu'on trouve déjà dans la pensée de Susan Sontag, ou c'est plutôt quand même quelque chose qu'elle évoque de manière incidente, dans un entretien, au détour de quelques lignes? Ou est-ce que, selon vous, Cornelia Moser, chez Susan Sontag, on trouve véritablement une formalisation, en fait, du camp à ses textes sur la sexualité, la pornographie? On trouve, en fait, vraiment une ébauche de ce qui pourrait être une réflexion sur essentialiste de déconstruction des essences féminins masculins, ou vraiment c'est un sujet qui était une incidence dans ses théories.
Encore une fois, c'est un peu avant la lettre dans la mesure où je pense que la déconstruction c'est plutôt une affaire des années 70 aussi, et elle écrit en 64 ses notes sans camp. Mais en effet, on peut y voir déjà les idées, ils ne ils sont souvent aussi dans une ère du temps. Je pense que 68 y était pour quelque chose, les mouvements féministes, les mouvements homosexuels y étaient pour quelque chose, qu'on puisse commencer à imaginer le monde autrement, en fait. Et donc là-dedans, elle qui est particulièrement sensible à ce qui l'entoure, au monde, comme intellectuelle et critique culturelle engagée, elle sent ça et elle a besoin d'écrire aussi, peut-être parce que, à mon avis, avec sa manière de vivre, elle a dû aussi, enfin, elle, dans l'archive que vous avez diffusée, voilà, elle montre aussi que ce genre d'expérience de la heurte, en fait, que le fait d'être, quand on vit aussi librement, qu'on se fait régulièrement aussi renvoyer sur sa place et que ça doit être aussi une manière à mon avis, c'est cet anti-essentialisme, cet anti-naturalisme qu'elle n'a pas envie d'être enfermée dans une catégorie naturelle, c'est très présent dans sa pensée.
Mais est-ce que c'est quelque chose que Suzanne Sontag n'a pas sous-estimé en fait chez d'autres sujets, chez d'autres personnes, cette possibilité d'être libre, cette possibilité d'élever son enfant seul, d'être libre sexuellement. C'est-à-dire que si on peut garder quelque chose du féminisme de Suzanne Sontag, à savoir une sensibilité, non pas formalisée, mais en tout cas une sensibilité qui nous enjoint à dire je, à employer la première personne, à penser par soi-même, à se détacher des institutions, est-ce que ça c'est vraiment donné à tout le monde? Et est-ce que ça, Suzanne Sontag, elle avait pensé cette inégalité de liberté des êtres entre eux?
Elle n'est pas une penseuse des inégalités. Après, elle reste sensible. Si elle s'intéresse souvent aux cultures marginalisées, aux cultures populaires, contrairement aux cultures reconnue ou bourgeoise, c'est aussi qu'elle a une sensibilité comme ça. Et ses notes en camp, l'année dernière, ont été le thème du gala d'un des plus grands musées d'art à New York. Elle a fait de cette pratique subculturelle, par sans doute son prestige, quelque chose qui est consommé, entre guillemets, dans la culture bourgeoise est normale aujourd'hui. Et ce texte, il est enseigné dans des universités prestigieuses, etc. Et donc, du coup, c'est toujours un mouvement ambivalent, parce que, d'une part, quand une culture devient une marchandise, en effet, il y a le risque de lui enlever, justement, son côté critique. En même temps, Esther Newton, dans sa réflexion sur le camp, elle dit que c'est déjà le propre du camp, en fait, d'être d'une part dirigé vers la communauté, donc essayer d'alléger la souffrance par l'humour, par des pratiques collectives, dans des balls, les balles de travestisme, etc. D'une part, et d'être d'autre part aussi dirigé vers la norme, vers la société, c'est-à-dire, en quelque sorte, par le divertissement, se faire accepter, en fait. Et il y a cette double stratégie dans le camp, mais qui était moins au cœur de ce qui intéressait Susan Sontag, je pense.
Une dernière question, Cornelia Moser, très rapidement. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant que docteur en études de genre, de Susan Sontag? Quelle est l'idée fondamentale féministe que vous gardez d'elle?
Susan Sontag, pour moi, elle m'a toujours inspirée et passionnée de par sa précision, sa rigueur. Elle a toujours essayé de trouver vraiment le mot juste. Elle est une critique culturelle comme il y en a très peu aujourd'hui. Ils sont un peu en voie de disparition. Elle a eu aussi, une passion pour Walter Benjamin, qui lui aussi était un critique culturel comme ça. Et les deux essayaient, il me semble, par leur critique culturelle, de comprendre le monde qui les entourait. Ils étaient extrêmement attentifs aux mots justes, comme le sont les écrivains. Et les deux sont aujourd'hui anachroniques, parce que la recherche, par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, détruit la recherche, en fait, une marchandise. Il y a un mouvement contre cela aujourd'hui, et c'est dommage, parce que je pense que cette société a besoin des critiques culturelles, et la recherche, elle a besoin d'être libre et non pas être là pour produire des marchandises.
Merci beaucoup, Cornelia Moser. Je suis obligée de vous interrompre, j'en profite pour signaler qu'en novembre prochain paraîtra votre livre, coécrit avec Marion Tillous, critique queer féministe de l'État aux éditions X. Et bien sûr, la plupart des œuvres de Suzanne Sontag sont disponibles en français aux éditions Christian Bourgois. Un grand merci à Anaïs Isbert, Marie-Laure Ciboulet à la réalisation et Sylvain Latu à la prise de son. On se retrouve demain pour la suite d'Avoir raison avec Suzanne Sontag.